franceinter.fr.
C'est l'heure du journal, voici Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Djihadistes en Irak ou en Syrie et après, quel sort pour les revenants et les revenantes qui veulent être jugés en France? Le Kurdistan syrien se dit prêt à laisser Paris gérer. Nous avons rencontré son représentant en France. Deux nouvelles victimes dans le sillage d'Eleanor, un agriculteur emporté par une coulée de neige en Savoie, une octogénaire morte dans sa maison, envahie par une coulée de boue en Isère. Un pompier est aussi disparu, il tentait de secourir une famille réfugiée sur le toit de sa voiture. Nous serons sur place. Au sommaire également ce soir, Marine Le Pen qui va avoir du mal à se défaire de l'étiquette Front National. Une menace de grève jeudi prochain chez Air France. Donald Trump qui tente de faire interdire le livre informé par son ancien conseiller Steve Bannon. Un village de la Drôme qui vend ses édifices religieux pour renflouer ses caisses. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et au téléphone sonne Pierre.
L'intelligence artificielle, une révolution technique qui va changer nos vies dans les années à venir. La machine va-t-elle surpasser l'humain? Vous imaginez, un robot pourrait présenter le journal de 19h sur France Inter. Quelle horreur! Vos questions 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr.
Les revenants du djihad n'ont pas fini d'embarrasser les autorités françaises. Le gouvernement martèle que ceux arrêtés en Irak seront jugés en Irak. Mais quel sort pour ceux capturés en Syrie et notamment les femmes et leurs enfants? Emmanuel Macron veut du cas par cas et plusieurs djihadistes demandent à être jugés, voire condamnés en France, dont Émilie Koenig, arrêtée en décembre par les Kurdes syriens avec ses trois enfants. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Paris veut qu'elle soit jugée, si possible, au Kurdistan syrien qui, lui, se dit prêt à s'arranger avec la France.
Car avant toute chose, les forces kurdes de Syrie, qui revendique la zone du Rojava, se présente en allié. Rappelle que le gouvernement français a été l'un des premiers à afficher un certain soutien. La question des djihadistes français détenus par les forces militaires kurdes se réglera donc en bonne entente, assure-t-il. Mais de là à dire qu'ils sont prêts à juger eux-mêmes Émilie Koenig ou d'autres, il y a un grand pas que le représentant du Kurdistan syrien en France ne franchit pas, en tout cas pas maintenant. Khaled Issa.
C'est trop tôt de parler de procès. Nous sommes en guerre. C'est à cause d'eux. Ils sont venus tuer nos enfants, détruire notre pays. Maintenant, si jamais ils sont jugés, certainement, on va veiller que l'ordre de loi soit assuré.
Mais que ces procès se tiennent en Syrie ou en France, qu'en est-il de la situation des djihadistes d'ici là? Dans une lettre à Emmanuel Macron, des Françaises de Daesh évoquent des conditions difficiles, voire de la torture, alors qu'elles sont détenues avec de jeunes enfants. Des accusations balayées par le représentant kurde.
Ils étaient interrogés, oui, mais torturés, et ça c'est dépourvu de toute réalité. La preuve, ils ont la possibilité de communiquer avec leur famille. Il ne faut pas que ces terroristes espèrent des palaces de 5 étoiles.
Aujourd'hui, les Kurdes de Syrie disent avoir capturé 1300 djihadistes de Daesh détenus dans des camps où se trouvent également des civils fuyant les combats. Et certains de ces djihadistes auraient déjà été remis à leur pays via des accords bilatéraux avec la Tchétchénie, par exemple.
Charlotte Piret et les djihadistes français seraient une trentaine d'adultes parmi eux arrêtés en Syrie ou en Irak avec plusieurs dizaines d'enfants. Merci Charlotte.
Le journal Sébastien Paour, la tempête Sébastien Eleanor a peut-être fait une quatrième victime.
Un skieur tué par un arbre hier en Haute-Savoie, un agriculteur retrouvé sous une coulée de neige à Bonneval-sur-Arc, toujours en Savoie cette fois, une octogénaire morte dans sa maison inondée par une coulée de boue en Isère et, dans ce même département, un pompier est porté disparu dans les gorges du Bréda, à cheval sur le département de la Savoie. Valentine Lottès, il tentait d'aider une famille réfugiée sur le toit de sa voiture quand il a été emporté par les eaux du torrent.
Ce soir, le sapeur-pompier de 65 ans n'a toujours pas été retrouvé, mais les recherches continueront toute la nuit, assure le préfet de Savoie, malgré des conditions météo très difficiles, même si en ce moment les pluies ont faibli sur la commune de Détrier. 80 secouristes, équipes cynophiles, plongeurs, gendarmes, pompiers poursuivent les recherches sur plusieurs kilomètres de berges escarpées et un torrent violent. Notamment grâce à des caméras thermiques, les équipes seront réduites au fil des heures et se relayeront pour retrouver ce pompier volontaire à la retraite de la caserne de La Rochette en Savoie, disparu, on le rappelle, alors qu'il tentait de secourir une famille piégé sur le toit de sa voiture par une coulée de boue. Il a lui-même été ensuite emporté dans le torrent du Bréda.
Eleanor laisse donc des villages inondés, des skieurs bloqués dans les stations des Alpes aussi, où le risque d'avalanche est maximal, et des incendies inédits pour la saison en Corse, notamment à Cervioni, en Haute-Corse, où près de 1000 hectares sont partis en fumée. Un restaurant et deux bergeries sont détruits, plusieurs dizaines de bêtes tuées. Reportage Maxime Beckmer.
Cervioni a perdu son image de carte postale. Ce balcon sur la mer, doté d'une châtaigneraie exceptionnelle, est dévastée.
Je vois la catastrophe. Hein. Voilà, ça me choque. C'est dommage parce qu'on avait de belles montagnes, toutes vertes. Maintenant, c'est la désolation. Tout est noir. Hein.
Catastrophique, on n'a qu'à voir. On a les montagnes là devant nous et on sait que le bilan naturel est énorme. Mais on est dans l'émotion, disons, énervé.
La colère, c'est bien ce que ressent cet habitant après le passage de l'incendie.
On est là à chercher les coupables parce que le feu qui part à 4h du matin à deux endroits différents, c'est criminel. Donc on est à la recherche de ces criminels pour les juger et les condamner.
Et c'est aussi l'étonnement pour beaucoup de voir un sinistre d'une telle ampleur.
On en a eu, hein. À mon âge, j'en ai vu quand même, hein. Mais pas comme ça. Pas le village enveloppé de fumée comme ça, on ne voyait plus rien. Surtout en plein hiver, voilà, justement.
Si le feu est aujourd'hui sous contrôle, il reste sous surveillance active et tout le monde n'est pas encore apaisé dans le village.
On est rassuré, mais quand on voit tous les pompiers revenir, on se demande si le feu va pas repartir, quoi. Voilà. C'est l'angoisse. Hein.
Le pire est désormais derrière et dans toute la micro-région, la solidarité s'organise pour venir en aide aux personnes sinistrées. À Bastia, Maxime Beckmer, France Bleu RCFM pour France Inter.
15 000 foyers sont toujours sans courant, la plupart en Corse. 22 départements en alerte orange inondation. Les prévisions météo à la fin du journal.
Enfin, une bonne nouvelle pour le Front National.
Les comptes de campagne de Marine Le Pen pour la dernière présidentielle sont validés, ce qui veut dire que le FN va pouvoir se faire rembourser un peu plus de 10 millions d'euros, de quoi renflouer les caisses d'un parti que les banques boudent. Mais pour le reste, le parti d'extrême droite est loin d'être au bout de la refondation voulue par sa présidente. Bonsoir Aurélien Colline.
Bonsoir.
Marine Le Pen repart en tournée dimanche dans l'Orne avant le congrès en mars, qui devra trancher notamment la question du changement de nom du parti. Elle y est favorable, mais ses adhérents moins.
Oui, c'est l'une des 80 questions posées à l'automne aux adhérents du parti dans un questionnaire de 8 pages destiné à rénover le FN sur la forme, le fond et le fonctionnement. 28 000 questionnaires ont été renvoyés au parti, le dépouillement est en cours et une majorité des adhérents est contre ce changement de nom, même si Sébastien Chenu, député et porte-parole, dément.
C'est complètement fantaisiste. Les questionnaires ne sont pas encore dépouillés. Ils seront présentés de toute façon fin janvier, début février. Donc, prière d'attendre jusque-là. Ces chiffres-là sont complètement fantaisistes. Fake news.
Petite pirouette en écho aux propos d'Emmanuel Macron hier sur les fake news. Alors que les sites et réseaux sociaux de la droite radicale ou extrême sont souvent accusés de colporter justement des fausses informations. Sauf que des sources internes au FN confirment que ce changement de nom n'est pas la priorité d'une majorité de militants. Pour certains, ce nom, c'est l'identité du parti, son histoire. Pour d'autres, FN ou pas, le parti restera diabolisé. Pour d'autres encore, ce n'est surtout pas le bon moment. Si on avait fait 45% à la présidentielle, attirer plus d'électeurs d'autres partis, oui. Mais là, c'est risqué d'imposer une nouvelle marque, résume un cadre en rappelant les européennes qui arrivent. Le problème, vous lisiez, c'est que Marine Le Pen veut ce changement de nom. Elle l'a dit en septembre dans son discours de rentrée pour se relancer. Alors si les adhérents sont contre, ce serait un sérieux désaveu pour une présidente déjà très affaiblie.
Aurélien Colli, pas de comparution immédiate après l'agression d'un policier lors d'un contrôle de scooter lundi soir à Aulnay-sous-Bois. Le parquet ouvre une information judiciaire pour des infos complémentaires et les 5 jeunes de 14 à 24 ans seront finalement présentés à un juge d'instruction. Rémi Brancato, l'enquête va donc se poursuivre.
L'enquête va donc continuer sur cette interpellation compliquée lundi soir à Aulnay-sous-Bois avec un scénario lui aussi peut-être un peu plus compliqué que prévu. Les policiers ont d'abord évoqué l'arrestation de cet adolescent de 14 ans sur un scooter. Deux agents de la BAC l'interpellent dans la cité des 3000. L'un d'eux est alors frappé par un groupe d'une dizaine de jeunes. Bilan, 8 jours d'interruption totale de travail et 6 arrestations. L'un des jeunes est ensuite relâché. Mais plutôt que de juger les 5 autres aujourd'hui, le parquet a choisi de saisir un juge d'instruction pour des investigations complémentaires. Hier, une vidéo publiée sur Internet a quelque peu mis le doute sur le scénario de départ. On y voit un jeune couché sur le trottoir, un homme en civil est sur lui et il le frappe de plusieurs coups, puis il brandit une arme. Il pourrait donc s'agir d'un des agents de la BAC. On sait que l'un d'eux a ouvert le feu en l'air. Et selon une source proche de l'enquête, l'un d'eux a reconnu avoir porté des coups au jeune garçon. Il assure que c'était pour se défendre que l'adolescent tentait de le frapper avec son casque. Rémi Brancato, France Bleu Paris pour France Inter.
Apple contre-attaque. Le géant américain a signé en référé l'association altermondialiste qui a occupé son magasin de l'Opéra à Paris il y a un mois. La marque à la pomme met en avant le risque pour ses employés et ses clients et le préjudice commercial avec les menaces réitérées par attaque d'incursion dans son magasin parisien. Et puis vous vous souvenez de ce SDF tombé par hasard sur les sacs d'argent d'un transporteur de fonds. C'était le mois dernier à l'aéroport de Roissy. Et bien cet homme d'une cinquantaine d'années n'est pas parti avec 300 000 euros comme on l'avait dit, mais avec 490 000 euros, selon la société Loomis, il est toujours introuvable.
19h10, le journal Sébastien Paour. Les pilotes d'Air France seront-ils en grève jeudi prochain?
Les syndicats, en tout cas, ont déposé un préavis. Ils accusent la compagnie de ne pas avoir respecté une règle fondamentale du transport aérien qui désigne le commandant de bord comme responsable de la sécurité du vol. À l'origine de la colère, Philippe Lefebvre, le débarquement d'un de leurs collègues la semaine dernière à Orly, qui n'a pas voulu décoller parce que le chef de cabine était remplacé par un steward.
Cela s'est passé mardi dernier. L'équipage du vol AF-74-80 arrivé la veille de Bordeaux devait repartir pour Biarritz, mais la chef de cabine souffrante ne pouvait pas monter dans cet avion. Alors la direction d'Air France a demandé à un steward de l'équipage d'assurer les fonctions de sa collègue. Inacceptable pour le pilote, qui est aussi instructeur sur Airbus A320, car estimait-il, la présence d'un chef de cabine en titre était indispensable en raison des mauvaises conditions météo à venir durant le vol. Il faut rappeler en effet qu'un chef de cabine est un acteur essentiel de la sécurité à bord d'un avion et qu'il peut dans ce domaine prendre des décisions sans en référer au commandant de bord. Seulement voilà, chez Air France, on tente de faire pression sur les membres d'équipage pour qu'ils partent quand même. Ceci parle de menace et au bout du compte, eh bien, c'est l'équipage au complet qui est débarqué et remplacé par un équipage de secours. Alors, chez les pilotes, on ne décolère pas. Ceci explique qu'Air France remet aujourd'hui en cause les prérogatives des pilotes qui sont les seuls à juger s'ils peuvent ou non transporter leurs passagers en sécurité et ils exigent des excuses de la compagnie ainsi qu'une remise à plat des procédures de sécurité, faute de quoi ils appelleront à la grève le 11 janvier prochain.
Un hôpital de la région parisienne privé d'électricité pendant 2 heures, c'était lundi 1er janvier à l'hôpital Bégin de Saint-Mandé, près de Paris. Information de nos confrères de France Bleu, Paris. Nicolas Olivier, les groupes électrogènes n'ont pas fonctionné et des patients ont dû être évacués.
Imaginez les pompiers et le SAMU en train de déplacer dans l'obscurité et par les escaliers des malades intubés et placés sur respirateur artificiel. La scène a beaucoup inquiété leurs proches. 4 personnes seront finalement évacuées vers des hôpitaux voisins. La direction affirme aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de risque pour leur santé. Le médecin général Jean-Claude Rigal-Sastourné, médecin-chef de l'hôpital Bégin.
Il n'y a pas eu de mise en jeu de la santé ni de la sécurité des patients. La continuité et la sécurité des soins, au contraire, a été maintenu. C'est un incident qui est rare puisque les réseaux électriques sont extrêmement protégés. Néanmoins, on n'est jamais à l'abri d'un enchaînement d'erreurs et de dysfonctionnements souvent d'origine humaine.
Et c'est bien ce qui s'est passé. Un employé d'une société de maintenance aurait branché un conteneur frigorifique sur la mauvaise prise parce qu'elle était mal étiquetée. Les batteries des automates qui sécurisent le réseau électrique se sont déchargées, empêchant de basculer sur le système de secours. Une réunion est prévue le 10 janvier. Pour analyser les événements, l'hôpital promet un plan d'action pour éviter tout incident similaire. Nicolas Olivier, France Bleu Paris pour France Inter.
Donald Trump sent-il l'enquête sur les liens entre son équipe et Moscou pendant la campagne présidentielle se rapprocher de lui? En tout cas, le président américain passe à l'offensive avant la publication du livre dans lequel son ancien conseiller Steve Bannon accuse notamment le fils du président de trahison. Marco Voltaire, ses avocats tentent d'en interdire la sortie prévue mardi prochain.
Après la guerre des mots, la bataille judiciaire, Donald Trump a donc décidé de contre-attaquer par la voix de ses avocats en s'adressant directement à la maison d'édition et au journaliste Michael Wolff, auteur du livre. Il aurait demandé de cesser immédiatement la distribution de Feu et Fureur, la Maison Blanche de Trump, au risque d'être poursuivi, notamment pour diffamation. L'ouvrage doit sortir mardi prochain, mais les bonnes feuilles circulent depuis hier et plusieurs rédactions ont d'ores et déjà obtenu une copie. À voir ce que l'intégralité du livre pourra encore nous apprendre, vu le caractère explosif des révélations déjà publiées. Quoi qu'il arrive, pour la Maison Blanche, le mal semble fait. Donald Trump est hors de contrôle, commente une source anonyme dans le Washington Post. Le président avait déjà une fois tenté de poursuivre l'auteur d'un livre sur lui pour diffamation. C'était en 2005. En cause, le journaliste y assurait que l'homme d'affaires n'était pas aussi riche qu'il le prétendait. Une plainte finalement rejetée quelques années plus tard. À New York, Marco Voltaire pour France Inter.
Ce ne sont plus que des rassemblements pro-régime qui ont encore lieu en Iran et la nuit dernière a été calme à Téhéran. Néanmoins, une voix se fait entendre, celle de Shirin Ebadi, la prix Nobel de la paix en exil à Londres. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Elle appelle ses compatriotes à la désobéissance civile.
Oui, c'est un point de vue juridique que donne Shirin Ebadi. Pour l'avocate des droits de l'homme, la Constitution est claire. Elle donne aux Iraniens le droit de protester malgré la répression. Il faut donc, dit-elle, continuer d'occuper la rue et de faire pression sur le gouvernement. Cesser, dit-elle, de payer les factures d'eau et d'électricité. Retirer l'argent que vous avez placé dans les banques publiques. Et Shirin Ebadi demande en parallèle aux policiers de déposer les armes pour rejoindre les manifestants. Le responsable de la situation, pour elle, c'est le président iranien Hassan Rouhani, a multiplié les dépenses dépenses militaires en Syrie, au Yémen, au Liban, dit-elle, en sapant le budget de l'État et en propageant la pauvreté en Iran. Et Shirin Ebadi accuse au passage le gouvernement d'avoir menti sur le nombre d'arrestations. Il parle de 700 personnes détenues. Je suis sûr, dit-elle, que le nombre est beaucoup plus élevé que cela.
Antoine Gignot à Londres, merci Antoine. Lui disait que publier des livres lui avait sauvé la vie. Paul Otchakowski-Laurence est mort hier dans un accident de la route en Guadeloupe. Il laisse 3 lettres bleues sur les couvertures blanches de ses ouvrages. Pérec, Duras, Marie Dariussec, Atik Raimi aussi, Goncourt en 2008 avec Singe Sabour, ou encore Jean Rollin, prix Albert Londres pour Ligne de front en 88. 17 ans que ses romans sont publiés chez POL. Je perds un compagnon d'écriture, dit-il.
C'est quelqu'un qui m'a accompagné. En dehors de la qualité des textes que publiait la maison, moi, ce qui m'y a attiré, c'est surtout l'extraordinaire sympathie que Paul dégageait. Il émanait de Paul un enthousiasme, une générosité, une gaieté extraordinaire.
Comment ça fonctionnait, cette relation écrivain-éditeur avec lui ?
C'est une relation de confiance mutuelle. Ce n'était pas du tout un éditeur interventionniste. Et à vrai dire, s'il aimait l'auteur, il était toujours d'accord avec un projet qu'on lui proposait. Et après, ben, ma foi, on écrivait le livre, et puis Paul le lisait très vite. Et heureusement, parce que, bien sûr, on attendait avec anxiété, c'est peut-être trop dire, mais enfin, avec impatience, son jugement. Hein. Et après, bon, il arrivait, je dis, voilà, qu'il suggère, certainement à juste titre, une petite retouche par-ci par-là, mais vraiment très peu de choses. Quoi. Je lui faisais confiance. Enfin, genre, pour moi, un livre existait, oui, à partir du moment où Paul l'avait agréé. Tant qu'il ne l'avait pas lu et agréé, c'est vrai que je ne savais pas quoi en penser.
L'écrivain Jean Rollin au micro d'Isabelle Pasquier. Elle a tourné pour Martin Scorsese, Woody Allen ou David Fincher. Cate Blanchett présidera le prochain festival de Cannes. L'actrice australienne aux 2 Oscars est aussi connue pour son engagement contre le harcèlement et les agressions sexuelles. Avec Nathalie Portman et Meryl Streep, elle a lancé cette semaine la fondation Time's Up, c'est fini en anglais, un fonds pour soutenir les victimes de harcèlement sexuel. De l'argent, il en faut aussi à Suze-la-Rousse dans la Drôme. Alors la commune de près de 2000 habitants vient de mettre en vente 3 bâtiments sur le coin, 3 bâtiments religieux, le prieuré, une ancienne chapelle et une ancienne église paroissiale. Pas de montant sur les annonces, Mélanie Tournadre, mais une pétition contre la vente.
Oui, elle a recueilli en un mois près de 600 signatures. Devant ces 3 bâtiments, Jean-Marie Jolivet ne cache pas son désarroi. C'est le président de l'association de sauvegarde du patrimoine suzien.
Vous avez d'abord l'église du 11e siècle. À côté, vous avez la chapelle 1480, le prieuré des années 1500. Et maintenant, c'est sur le bon coin.
Ici, Renaissance, gothique, roman se succèdent sur 100 mètres. Un petit bijou qu'il ne pensait jamais retrouver en vente sur Internet.
On se dit, c'est pas possible de faire des trucs comme ça. On peut pas laisser partir toute cette richesse patrimoniale et culturelle qui existe à Suze, quoi.
Le maire, lui, assume son choix. Michel Rieux compte obtenir de cette vente près de 250 000 euros. De quoi terminer les travaux de rénovation dans les écoles.
Quand on se sépare pas du patrimoine de qui était le cœur, mais les bâtiments, ils vont pas s'envoler. Ils vont rester. Au contraire, ils seront certainement mieux restaurés que ce que la municipalité pourrait le faire.
Le maire dit avoir reçu une 20aine d'appels de potentiels acheteurs, 7-8 visites en un mois et certains habitants comme Joseph approuvent.
On ne peut pas non plus vivre au milieu de tous ces trucs vieux qui sont des ruines qui vont tomber et qui coûtent cher.
Sans cette vente, le maire de Suze-la-Rousse assure qu'il faudra augmenter les impôts de 20% pour pouvoir terminer les travaux dans les écoles.
La solution pour Suze-la-Rousse, c'était peut-être la bouteille de vodka la plus chère du monde. Pierre a un flacon paré d'or et surmonté d'une réplique de l'aigle impérial russe incrustée de diamants. Elle vaut 1 million d'euros, cette bouteille de vodka, sauf qu'elle vient d'être volée. Elle était dans un bar de Copenhague.
Sans blague. Bah oui. C'était le journal de Sébastien Paour. Les couleurs du ciel, l'atmosphère du ciel.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Et voici Sébastien Léas de Météo France. Sébastien, encore de la pluie pour demain.
Oui Pierre, on va retrouver une large bande pluvieuse qui va onduler sur le pays. En matinée, cette bande de pluie va s'étendre du nord de la Nouvelle-Aquitaine au centre-est. Demain après-midi, le ciel d'Auvergne-Rhône-Alpes deviendra plus variable alors que les pluies aborderont l'Alsace et la Lorraine, ainsi que les Landes et le Pays Basque. Plus au sud, la journée sera plus lumineuse avec même un beau soleil autour de la Méditerranée en Midi-Pyrénées. Les éclaircies seront nettes entre la Bretagne, la Normandie et le nord. En revanche, les nuages resteront prédominants des Pays de la Loire à la Sologne Bourgogne au bassin parisien jusqu'en Champagne-Ardenne, avec même quelques gouttes de pluie possibles.
Sébastien, est toujours cette vigilance en cours?
Oui, faites encore attention aux conditions météorologiques, puisque 22 départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France pour des risques d'avalanches sur les massifs savoyards, de fortes pluies sur le centre-est et de crues sur de nombreux départements. Demain, le risque d'avalanche va commencer à diminuer, mais il restera fort de 4 sur 5 sur les Alpes frontalières. Et puis un mot des températures pour finir, qui resteront au-dessus des valeurs de saison. Il fera 6 à 12 degrés demain matin et 9 à 18 degrés demain après-midi, avec 11 degrés pour Paris, Bourges et Nancy et 17 degrés sous le soleil de Montpellier, Marseille et Ajaccio.
Sébastien Léas de Météo France, dans une trentaine de secondes, le téléphone sonne.